muchísimo afectado Uber ahorita, se está, están trabajando mucho en el Uber. Sacan su carro y se meten a trabajar de Uber. Conoce uno mucha gente de diferentes lados. Está repleto. No hubiera llegado hasta donde está llegando la delincuencia, porque ellos son los primeros que roban, son los gobiernos, son los líderes, son los gobernantes, son los diputados, son los gabinetes, ¿sí? Lo que hacen es robar nada más. ¿Y sabes a quién le roban? No le roban al rico, roban al pobre. Yo siempre he tenido este modo de pensar. Yo no voy a dar ningún voto para que ellos nos roben a nosotros. Nada más son puras promesas, pero no es eso. Tiran más al pobre, porque el rico está en su riqueza y a ellos no lo van a dejar. Por eso yo no voto por nadie. Ni por el que es bien, ni porque el que es más mal, ni porque todos son iguales, todos los que están peleando por tener el hueso, para tener dinero, son los mismos. Yo nunca he visto que el presidente cumpla lo que dice cuando están en las elecciones. Yo no, por mí nadie, ninguno de ellos se va a hacer más. Por mi voto. Nunca lo he hecho. No sé si haga mal o bien, pero no voy de acuerdo. Porque la delincuencia está al día. Nosotros pagamos impuestos por todo. Todo. A nosotros no nos regala nada el gobierno. A mí nunca me ha regalado nada el gobierno. A mí nunca, cuando han venido ciclones aquí, nunca me han dado una dispensa. Es porque yo voy a estar yendo y a andar votando, río de una balacera, y donde andan votando, porque se hacen agarrando todo. Cuando quieren que no voten por ese, ahí se están agarrando. No, yo estoy mirando nada, no se puede votar por el gobierno. A mí no me ayuda el gobierno. Allá por lo que creen que quieren hacer, porque lo hagan, son libres para hacerlo. Yo,
acá
preguntando que no hace falta en las calles y todo lo que sea, lo que se da. No, es que ellos no necesitan que pregunten también todo lo que les hace falta a la comunidad. ¿Para qué preguntan? Una vez llegó uno que se estaba lanzando para presidente. No, pues venimos que hacer el encuesta, que qué necesita, que no sé qué. Le dije, no, no necesitamos nada, mire, el carretón de basura pasa todos los días, tenemos escuela, tenemos hospital, tenemos todo. ¿Para qué preguntas si sabe lo que no tenemos? En aquel tiempo, te estoy hablando hace 25 años, y que se ríe, el andaba mero el que iba a ser para presidente. Que se ríe, mejor se les empezó a reír. Estaba viendo que estaba la calle llena de basura, que no había el carretón, no pasaba. ¿Para qué me preguntaba? Están viendo que no había hospitales, que no había un centro de salud nada más aquí. Hace 25 o 30 años. ¿Para qué me preguntaba lo que él estaba viendo? No es necesidad que le pregunte a la gente. Y han de actuar y no engañar, porque no se engañan. Engañan a la gente. Y andan regalando ahí gente de defensa, de una bolsita con ya con animales adentro. Digo, a mí no, a la gente que nos dice. Y en los frijoles, en la col, allá para que le puedan darle un poco. Ya cuando están sentados, no me puedo ganar. No, a mí nunca me han quitado.
¿Sí me estás oyendo? keeps cleansing me. It keeps my gills from getting dry. But it distorts things in my eyes. Sometimes I see what really isn't there. I'm not true lover, and I care.
Hola. Chava, saludo. Me ayuda, se llama Cheje. La opción es calor. Te chocó para nada. Oye, es cierto, yo. Pues. Me quiere, te van a estar ahí, chava. Pues sí. Chú quên cô nó xong này, ôn linh đã mà hộ đàn ông mà xong này. Tiến độ nó xong này à.
En d'autres termes, le principe du veto qui donne son piquant et son ressort, son air à la tentation, le principe du veto, c'est la prise en considération du futur, de la temporalité, de la plus grande étendue possible de futur. De la plus grande étendue possible de temporalité. Par exemple, la prévoyance, qui est le principe du souci. De quel nom appeler le désir que j'ai d'un fruit dont je sais qu'il me fera mal? Le fruit m'est défendu par les médecins. C'est un fruit qui est mauvais pour moi. Il n'y a aucune considération de morale là-dedans, c'est une considération purement de prophylaxie, d'hygiène, de médecine. D'autre part, ce n'est pas non plus une impossibilité matérielle, il est à ma disposition. Donc l'obstacle n'est ni matériel ni moral, mais l'obstacle est inhérent à la raison prospective, à la raison prévoyante, qui fait acception du futur et qui, par-delà la jouissance momentanée que me procurera la fruition de ce fruit délectable, m'annonce les soucis qui s'en suivront et que j'anticipe, que je préimagine. Je préimagine tous les inconvénients qui résulteront pour moi de l'absorption de ce fruit. Et c'est cela qui me retient. Il y a donc, comme vous le voyez, une synopse temporelle, le panorama temporel. Le principe de l'interdiction, c'est le panorama temporel, et par conséquent, l'interdiction, l'interdiction Et ici, le combat de la précaution et du désir. Je dis bien le combat dans notre langage, que j'ai voulu le plus précis possible, et non point le débat, n'est-ce pas ? Non point un débat déchirant, mais un combat entre deux choses. L'homme est tenté parce qu'il est prudent, parce qu'il est prévoyant. Mais est-ce là une tentation ? D'abord, ce qui retient l'homme, ce n'est point un impératif catégorique qui n'a pas donné ses raisons, un impératif qui se justifie parce qu'il est lui-même, parce que la chose est défendue ou parce qu'elle est ordonnée, c'est un impératif hypothétique, comme dirait Kant. C'est ma santé. Mais est-ce que ma santé est nécessaire à l'ordre du monde ? Est-ce que c'est une considération morale ? Surtout si il s'agit d'un homme qui n'a pas d'enfant, dont l'existence est inutile à tout le monde, peu importe sa santé. Donc la morale n'a rien à voir là-dedans. C'est donc un impératif hypothétique et même égoïste, puisqu'il ne concerne que lui. Et d'une part. Et d'autre part, nous disons que l'homme est déchiré entre l'intérêt immédiat de l'attrait voluptueux et l'intérêt supérieur, lointain, de sa santé, de son bonheur. Donc, il est déchiré entre deux intérêts, un petit et un grand. Mais est-ce qu'un homme déchiré entre deux intérêts est vraiment déchiré ? Est-ce qu'on peut dire, autrement que par manière de parler, qu'il est déchiré ? Un homme déchiré entre deux intérêts est-il déchiré ? Est-il écartelé ? Autant dire qu'un monsieur à la bourse qui se demande, ou un homme qui parie, qui hésite entre deux chevaux, et pariant aux courses, est déchiré, écartelé. Ce n'est pas un conflit moral, il hésite. Enfin, il voudrait gagner, simplement, il demande de quelle manière gagner plus efficacement. C'est son intérêt des deux côtés. La similitude de ce qui est en cause des deux côtés, n'est-ce pas, et qui est des deux côtés son intérêt, l'intérêt de l'instant d'un côté, l'intérêt de la plus grande durée de l'autre, fait qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tragédie, mais simplement une hésitation. Entre deux intérêts, l'un momentané, l'autre durable et important, on peut dire que, en somme, le choix est tout choisi. Pour un homme qui est digne de ce nom, le choix est choisi d'avance, l'instant pèse moins lourd que l'intervalle, vaut moins cher et moins important, tout au moins pèse moins lourd arithmétiquement, rationnellement, physiquement, et à moins de poids, et ainsi de suite. Et pourtant, on a l'autre sens, ce cas qui ne ressemble pas à ce que nous appelions la tentation, puisque l'homme n'est pas vraiment déchiré, en un autre sens, il y ressemble quand même un peu. Et nous retrouvons un certain droit de parler d'innovation. Il y ressemble un peu, parce que bien qu'il s'agisse de deux intérêts comparables, l'un qui est celui de l'instant, l'autre qui est celui de la plus longue durée, malgré tout, il y a une hétérogénéité irréductible. Une incomparabilité, non point absolue, mais relative, entre ces deux intérêts. On ne peut pas, en un sens, comparer le plaisir de l'instant et le bonheur de l'intervalle. Et on conçoit très bien même un homme raisonnable qui se dira, après tout, par rapport à l'infini de la raison, de l'éternel, devant l'éternel, et le bonheur de toute ma vie, ou l'absence d'indigestion, sous prétexte que je n'aurais pas mangé le fruit, ça ne vaut pas plus cher que le plaisir que je vais me donner, n'est-ce pas ? L'un et l'autre tendent à s'annuler par rapport à l'infini, donc le mieux est peut-être de manger ce fruit. Donc l'instant pèse moins lourd que l'intervalle, à condition qu'on ne compare pas deux choses finies, et qu'on ne compare pas le fini et l'infini. Or, on peut très bien dire qu'entre la volupté immédiate, le plaisir sans mélange que je vais avoir à manger le fruit, d'une part, et d'autre part, cet ennuyeux bonheur qui consiste à n'avoir pas d'indigestion, mais à condition de se priver de tout, il n'y a pas de commune mesure. Ils sont incommensurables à l'autre, et que même un homme doué de raison, par exemple un épicurien super raisonnable, plus raisonnable qu'un sordide, à la petite semaine, est parfaitement capable de nous commander de manger le fruit, n'est-ce pas, au risque d'être malade, et en nous montrant que ça n'a pas tellement d'importance. C'est donc la vie. Malgré la ressemblance relative des deux choses qui sont en conflit dans ce combat, il y a quand même une dissimilitude qualitative entre les deux, entre un tien et un tu l'auras, n'est-ce pas ? Entre un tien instantané, naturellement qui dure très peu sur l'horloge, mais qui par contre me paye comptant, n'est-ce pas ? C'est une jouissance incontestable, une évidence au sens épicurien du mot, qui me paye constant, et un tu l'auras qui durera peut-être toute ma vie, mais qui n'a ni goût, ni saveur, ni odeur, insipide, incolore, inodore, il a beau durer toute ma vie, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse si je ne ressens rien ? dire aussi qu'il y a une espèce d'attrait paradoxal, pervers, à faire une chose que l'on soit folle. Une chose que l'on sait néfaste et pernicieuse. De quel nom appeler cet attrait? Ce n'est pas de la perversité, puisque la perversité, c'est plutôt dans le cas de la morale. Je fais une chose mauvaise parce que je sais qu'elle est mal. Mais à condition qu'elle soit mauvaise moralement. Ici, il s'agit simplement de ma santé et de mon utilité. Et c'est plutôt, de nouveau, le désir du néant qui est en jeu. De la raison et de
передача данных.
Здравствуйте, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а сегодня у меня в гостях специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич я пригласила по поводу лихорадки западного Нила и оспы обезьяна. Ну, конечно же, мы вспоминаем и коронавирус, и чуму, и прочие лихорадки Зика. Владислав Евгеньевич, влияет ли ослабление иммунитета поколения на скорость изменения вируса?
Да нет, у поколений иммунитет никак не ослабевает.
Нет?
Он такой, который определяется родителями и только лишь. А дальше начинает тратиться, как шагреневая кожа. Закурил, кусочек выбросил. Запил, кусочек выбросил. Там живешь где-то на ядерном полигоне, кусочек выбросил. Это вот такая вот картина с иммунитетом. То есть, да, поэтому все вот эти иммунококтейли...
Я знаю, вы не любите поднять иммунку, это как красная тряпка для вас.
Я просто, я сразу, вот, так сказать, возбуждаюсь и начинаю, хочется по башке кому-то дать за произнесение.
Я помню, Владислав
Евгеньевич. Поднять иммунку, вы запомнили.
Да, с нашей первой встречи я помню, это поднять иммунку, это хорошо.
Это сразу.
Да.
А в то же время вот микробы, они, конечно, приспосабливаются. Если им понравился на вкус человек, я тут утрирую, что им понравилось как...
En quatrième lieu, ou presque enfin, puisque il y aura un post-scriptum, mais un peu en dehors déjà de notre propos, en quatrième lieu, il faudrait placer les tentations proprement dites, celles qui font l'objet de notre recherche de cette année.